L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons.
On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien.
France Culture.
L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
Les termes du débat européen.
Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe.
Le débat sur l'avenir de l'Europe a ainsi été relancé.
Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe.
Emmanuel Laurentin.
Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi, les termes du débat européen, une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui dans un pays de l'Union européenne, en partenariat avec le journal La Croix. À l'ordre du jour ce soir, Bulgarie et corruption. Pour la sixième fois en trois ans, les Bulgares retourneront aux urnes le 9 juin prochain, à la fois pour les élections européennes, mais également pour des élections législatives anticipées. Car la coalition formée l'an dernier à la même époque entre les deux principaux partis a éclaté sous le coup, entre autres, évidemment, d'accusations de corruption. Or, le pays le plus pauvre de l'Union, longtemps mis sous surveillance par Bruxelles, a obtenu la levée en septembre dernier du mécanisme de coopération et de vérification chargé justement de mesurer les progrès du pays en matière d'état de droit. Les efforts faits en ce domaine sont-ils aujourd'hui suffisants? Comment les institutions et la société civile elles-mêmes peuvent-elles résister à la corruption? Ce sont les questions que nous allons poser en compagnie de Béatrice Bougnol, bonsoir.
Bonsoir.
Du journal La Croix. À nos deux invités, Nadège Ragarou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, historienne, directrice de recherche au CERI Sciences Po et spécialiste de la Bulgarie. Et avec nous depuis la Bulgarie, Philippe Gounev, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant, notamment auprès de l'Europe, ancien vice-ministre de l'Intérieur en Bulgarie il y a 7 ans. Vous avez travaillé pour l'ONG le Fonds Anticorruption et vous coopérez au rapport sur l'état de droit en Europe pour les institutions européennes à propos justement de votre pays, la Bulgarie.
La politique zéro corruption que nous appliquons aujourd'hui implique tous les ministères. Nous consacrons toute notre énergie pour que ce changement se concrétise. Quant à savoir si ça va continuer après les prochaines élections, je suis convaincu que ce sera le cas, car la société bulgare, la société civile, a suffisamment mûri et qu'elle ne peut plus tolérer ces pratiques. Ce n'est plus acceptable pour une large partie de la population. Et selon moi, à long terme, c'est la meilleure garantie que nous sommes engagés sur la bonne voie.
Vous venez d'entendre un des principaux leaders politiques en Bulgarie, Kirill Petkov. Il était alors ministre bulgare de l'économie en 2021. Il a été ensuite Premier ministre et il a été en charge en particulier de la lutte contre la corruption. Mais son gouvernement n'est pas resté longtemps, comme vous l'avez compris. C'est souvent le cas des gouvernements en Bulgarie ces derniers temps. Béatrice Bougnol.
Oui, bonsoir Philippe Gounev. On vient d'entendre effectivement Kirill Petkov qui a été porté au pouvoir donc en novembre 2021, mais n'a pu s'y maintenir que seulement 9 mois. Qu'a-t-il représenté en fait dans cette lutte anticorruption?
En fait, il a donné un interview il y a 2 semaines où il a dit « nous étions très naïfs il y a 3 ans qu'on va changer la société bulgare dans un an, dans 2 ans, on va combattre la corruption et en fait, c'est ce qu'on a vu pendant les dernières 3 ans parce que c'est vrai qu'il était premier ministre pendant 9 mois, mais après le gouvernement qui était le dernier 9 mois avec un autre premier ministre, c'était aussi sous le pouvoir de Monsieur Petkov. Mais ce qu'on a vu pendant les dernières 2 ans, 3 ans, c'est que il y avait des grands espoirs, il y avait des expectations des gens qu'on va changer quelque chose, mais il n'y avait aucune des promesses qu'on a entendues il y a 3 ans. En fait, il n'y avait pas aucune substance après de introduire toutes les réformes qui étaient nécessaires pour vraiment combattre la corruption. Et le résultat de tout ça, que 3 ans plus tard, on voit que la corruption est à un niveau très haut qui était la même, où on dit aussi qu'aujourd'hui c'est plus haut que c'était il y a 3 ans.
Béatrice Bougnol.
Nadège Ragarou, vous partagez ce diagnostic un peu sombre. Il ne reste pas grand-chose de l'ambition de Kirill Petkov aujourd'hui ?
Je le partage sans le partager. Je partage le constat du niveau très élevé de corruption aujourd'hui, notamment lié à la fragilité des situations de gouvernement intérimaire et aux effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On y reviendra sans doute. Dans le même temps, il y avait naïveté, assurément, sur le degré de collusion entre les milieux économiques d'oligarques et la classe politique. Mais il y a eu un engagement véritable de la part du gouvernement de Kirill Petkov et quelques petites avancées, comme des amendements constitutionnels relatifs au fonctionnement de la justice adoptés au mois de décembre dernier, qui devaient se traduire par une loi, laquelle n'a pas encore été votée. Mais cependant, ce dynamisme-là, ce désir de lutter contre, sont des éléments qui demeurent, et pas simplement au niveau du discours.
Alors justement, pourquoi cette accusation de corruption est-elle si souvent utilisée ? Est-ce que parce que cette corruption est réelle, ou est-ce que c'est quel est l'état de la corruption dans le pays pour que dans des débats politiques, eh bien, ça soit l'insulte principale que l'on adresse à ses adversaires, quel que soit le camp qui prenne la parole ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela, Philippe Gounef d'abord, et puis Nadège Ragarou ensuite. Philippe Gounef.
Et en fait, c'est vraiment réel. C'est surtout la grande corruption. Peut-être la différence, il y a 25 ans, il y a 20 ans, pour les gens réguliers, il y avait une expérience de corruption quotidienne. Aujourd'hui, c'est surtout la corruption qui touche les grandes entreprises, surtout avec les contrats publics. Mais aussi la situation avec la justice et le système judiciaire, où c'est ce qu'on a vu que pendant 20-30 ans déjà, il n'y a pas aucun politicien au niveau haut qui était condamné en prison. Donc le système judiciaire ne fonctionne pas quand elle doit marcher contre le milieu, contre les politiciens au niveau, n'importe quel niveau. Il n'y a pas aucune maire des grandes villes qui était condamnée. Et c'est pour ça que les gens, ils ont le sentiment qu'il n'y a pas de justice dans le pays. Le parquet, surtout le parquet, le procureur général ne fonctionne pas ou fonctionne seulement avec quand il travaille avec une partie politique.
Oui, on voit bien cela, et on voit aussi, Nadège Ragarou, qu'il y a, quand on fait un sondage, c'était en 2019, ça date déjà de 5 ans, mais que 41% des Bulgares déclaraient avoir eu recours à la corruption, par exemple, pour obtenir des droits ou des possibilités du côté du service public, et que, par ailleurs, Transparency International nous dit que c'est, à leurs yeux, en tous les cas, en tant qu'ONG, le pays le plus corrompu d'Europe. Est-ce que cela, c'est entendable, justement, dans l'état de la situation de la Bulgarie aujourd'hui ?
Je pense qu'en Bulgarie, en fait, on a la convergence entre 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est celui très bien décrit par Philippe Gounef, au niveau du pouvoir central, des grandes entreprises, des marchés publics, des fonds européens, des contrats dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures, comme l'énergie. Mais il y a aussi le mode de fonctionnement de la vie politique au quotidien dans des villes de taille moyenne où il y a une observation par les citoyens de la façon dont certains hommes d'affaires se sont enrichis très rapidement, dont certains acteurs politiques aussi. Et donc, ce n'est pas simplement un discours, c'est un vécu dans lequel il faut, pour survivre au quotidien, être en mesure de donner ou de s'appuyer ou de faire basculer des allégeances. C'est donc un clientélisme qui aurait dérivé vers des collusions. Mmh. Premier élément. Le deuxième, c'est que la Bulgarie a connu depuis 30 ans une explosion des inégalités sociales. Et cette explosion qui a détruit progressivement la classe moyenne débouche sur un sentiment d'injustice, d'inéquité, d'illégitimité qui s'ajoute à l'observation de la corruption. Mmh. Et la troisième, c'est qu'il y a une instrumentalisation dans la vie politique d'affaires de corruption parce que cela est politiquement opérant et parce qu'il y a des logiques qu'on appelle de compromati, d'informations compromettantes que l'on peut mobiliser contre des adversaires relativement aisément.
Béatrice Bougnol.
Oui, justement, Nadège Ragarou, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots les affaires emblématiques qui ont eu lieu ces derniers temps en Bulgarie et qui ont, je crois, pour deux d'entre elles d'ailleurs, mis en cause le procureur général Borislav Sarafov. Il y en a trois principales, donc peut-être que vous pouvez en exposer une ou deux et Philippe Kounev prendre le relais ensuite.
Oui, Nadège Ragarou.
Oui, moi j'aurais souhaité parler avant tout des enjeux qui me semblent essentiels, car très peu discutés, en tout cas en France, des accords qui ont été passés dans le secteur de l'énergie. Vous savez que la Bulgarie a sur son territoire la raffinerie Lukoil russe. Vous savez que la Bulgarie avait obtenu des dérogations aux sanctions européennes et que le terminal pétrolier qui est situé à proximité est très fortement soupçonné d'avoir été un canal à travers lequel circulaient de manière illicite des carburants, voire autre chose, des armes par exemple. Et c'est un enjeu majeur que cette capacité à faire transiter par la Bulgarie des produits en provenance de Russie. La même configuration s'observe alors paradoxalement, car la presse française avait salué en janvier 2023 la signature d'un accord entre la Bulgarie et la Turquie pour qu'elle s'approvisionne et qu'elle diversifie ses sources de gaz. Et de fait, il s'avère que cet accord, fort peu transparent dans ses modes de négociation, assez peu avantageux pour les contribuables bulgares, est aussi un des canaux par lesquels la Russie réussit à faire entrer en Europe du gaz. Donc là, nous sommes à un point qui me semble crucial, c'est l'interaction entre la grande corruption dans des secteurs stratégiques et la situation du rapport de dépendance à la Russie et de la guerre faite à l'Ukraine.
Oui, de votre côté, Philippe Gounef, il y a des affaires, comme on dit, parce qu'on dit cela aussi en France, des affaires qui éclatent régulièrement. L'affaire des marchés d'ascenseurs dans les immeubles construits sous l'ère soviétique, l'affaire des huit nains. Alors, il faudrait peut-être nous expliquer ce que c'est que cette affaire des huit nains. Ou alors l'affaire Nexo, qui est plus moderne d'une certaine manière, puisqu'il s'agit d'une société de fintech, comme on dit, de technique financière, qui est sous enquête donc pour justement fait de corruption. Vous pouvez nous expliquer ou donner des images à nos auditeurs et auditrices pour qu'ils comprennent un peu quelles sont les différentes affaires qui représentent, en plus de celle qui vient d'être et qui est très importante, qui vient d'être mentionnée par Nadège Ragarou, de cette question énergétique et de la place centrale qui occupe la Bulgarie depuis la Russie.
En fait, ils sont un peu différent peut-être parce que il y a chacun depuis peut-être déjà 10 ans, il y a chacun une affaire nouvelle qui est créée par le parquet, par le procureur général. Maintenant nous avons une troisième déjà procureur général qui joue avec la partie qui est au pouvoir. Donc en Bulgarie, la différence avec la France, c'est que le procureur général doit être partie du système judiciaire, donc il doit être indépendant de la gouvernement. Donc c'est pas le ministre de justice qui est le procureur, c'est une figure indépendante qui est élue par différents joueurs, le parlement, le président et aussi le système judiciaire eux-mêmes. Mais le problème c'est que comme Nadège a expliqué que la police qui est aussi sous un contrôle tout à fait direct de la partie politique qui est au pouvoir, avec le procureur général ou le parquet comme une institution, ils font chaque année la même chose. Ils commencent les enquêtes de corruption, mais ça s'arrête une fois qu'il il trouve les preuves contre quelqu'un, en lieu de commencer d'avancer cette enquête dans une étape des cours, ça reste au niveau d'enquête préliminaire où la personne qui est sous enquête est informée qu'ils ont quelque chose contre lui. Mm-hmm. Et s'il joue pas avec la partie au pouvoir, s'il joue pas avec le parquet, la enquête va continuer contre lui. Et
donc c'est un chantage. On peut dire que c'est une sorte de chantage.
Oui, tout à fait. Et ils font ça aussi avec les quand ils ont les profs. Il pousse une partie des profs dans le média. Il y a quelques sites d'internet qui sont très proches au parquet, au procureur général. Et le procureur général, il donne cette site d'internet une partie des profs contre les différents politiciens, contre les différentes entreprises. Et il y a toujours un scandale, une affaire. Et ça continue pas. En fait, après ce chantage du média, il commence à parler avec eux. Et peut-être c'est ce qu'on trouve quatre ans plus tard, on trouve que il n'y avait pas un délit. Tout à fait. En fait. Ouais.
Et donc, on peut dire que ça pourrit l'atmosphère interne, pourrait-on dire, de la Bulgarie, parce qu'il y a des soupçons qui ne vont jamais jusqu'à la condamnation. Béatrice Bougnol.
Oui, Nadège Ragarou, est-ce qu'il faut voir dans cette implication des juges et notamment du procureur général un héritage du communisme ?
Alors, je pense en fait qu'on a deux héritages paradoxaux qui sont venus à interagir. D'un côté, dans les régimes communistes, ce que l'on appelait la procuratura était extrêmement puissante et le procureur général a partiellement hérité de cette image et de ses prérogatives. Mais dans le même temps, lorsqu'on a voulu réformer la justice après 1989 avec une multitude de consultants occidentaux, l'une des préoccupations principales était de garantir son indépendance par rapport au pouvoir politique et notamment d'insister sur l'inamovibilité de tout un ensemble de fonctions. Or, paradoxalement, cette situation d'inamovibilité n'a pas permis de mener des enquêtes contre des magistrats ou des figures qui seraient impliquées dans des situations de collusion, de criminalité organisée ou d'influence. L'affaire du notaire dont vous avez parlé précédemment était un intermédiaire entre milieu judiciaire et politique qui est décédé, cela arrive, assassiné relativement récemment, et qui a mis en exergue justement précisément l'importance de réussir à faire en sorte que des critères beaucoup plus stricts permettent, un, l'ouverture de poursuites judiciaires éventuellement contre le procureur général et la relativisation de ses prérogatives, et deux, une transformation des instances de supervision à la fois pour recruter, pour faire demeurer dans l'appareil judiciaire et pour mieux séparer ce qui concerne le monde du parquet et le monde des juges.
Est-ce que le
donc, problème communiste et post-communiste.
Oui, est-ce que l'arrivée des fonds européens qui ont été importants pour pouvoir développer la Bulgarie qui était et qu'il est encore le pays le plus pauvre d'Europe aujourd'hui a aussi participé à cette massivement par l'arrivée de milliards d'euros pour pouvoir donc mettre l'économie bulgare à niveau d'autres pays européens. Est-ce que ça a participé aussi à ces questions de corruption selon vous, Philippe Gounef d'abord? Et puis Nadège Ragarou ensuite.
Oui, mais c'est ce que je pense que c'est aussi important que les contrats publics, c'est l'influence sur les médias des fonds européens. Parce que chaque fonds européen vient avec peut-être quelques personnes d'un fonds. On doit faire pour la publicité de cette fonds. Et le gouvernement qui est au pouvoir, ils donnent cet argent aux médias qui sont élus spécialement. Et si on veut jouer avec la partie qui est au pouvoir, on reçoit les fonds pour les publicités, pour les fonds publics. Mmh. Donc, les fonds européens sont devenus un instrument pour contrôle de, mmh. Des grands médias, surtout les grands productions de télévision qui ont le plus d'influence et du radio aussi. Ouais. En plus de ça, nous avons surtout les fonds d'agriculture parce que il y a des autres qui, peut-être pour la construction des autoroutes et tout ça, où il y a quelques grands contrats, mais ça c'est plus facile de comparer, de voir s'il y a une grande partie des fonds qui étaient détournés. Mais l'argent qui vient pour l'agriculture, ça est diffusé au niveau tout bas avec des, en fait, c'est contrôlé tout à fait au niveau local par des politiciens et par des activistes des partis qui est au pouvoir à distribuer aux gens dans les villages et aussi pour recevoir ces votes pendant les élections.
Oui, justement, sur ce point, Nadège Ringarou, cet argent européen, l'afflux des aides, mais aussi peut-être une structure de décentralisation qui fait descendre l'argent très profondément, très, très bas dans la société, participe-t-il à la création de baronnies, comme on dit, dans la société bulgare, avec des gens qui ont d'un seul coup acquis beaucoup de pouvoir et donc qui peuvent monnayer ce pouvoir par la corruption ?
Alors oui, il y a une question en fait du calendrier qui est absolument essentielle. Les fonds européens ont augmenté les ressources à la disposition de ceux qui parviennent à les capter et donc qui peuvent ensuite les redistribuer, ce qui a débouché sur une intensification extrêmement profonde de la concurrence, concurrence politique et concurrence dans les milieux économiques. Et donc, si vous voulez, une brutalisation des rapports dans ces deux secteurs. Mais en raison du moment de l'arrivée et des exigences de l'Union européenne pour pouvoir bénéficier de ces aides européennes, il faut avoir des savoir-faire juridiques, il faut avoir des formes de compétences. Et quand la Bulgarie a intégré l'Union européenne, des réseaux qui vont de l'économie blanche à l'économie noire, c'était déjà doté de départements juridiques, de savoir administratif qui leur permettaient de solliciter ces financements. Donc ce n'est pas simplement une question de montant, c'est une question de montant corrélée à des structures et à la façon dont, en effet, au croisement avec la décentralisation, pour des villes de région puissantes, il y a eu une capacité à contrôler beaucoup plus largement de vastes secteurs de la société et de l'électorat.
Merci donc à tous les deux. Nous sommes à 18h43 sur France Culture en train d'écouter le terme du débat européen qui donc s'intéresse à la Bulgarie, un des pays de l'Union évidemment, et à la question de la corruption dans ce pays en compagnie de Béatrice Bougnol du journal La Croix, notre partenaire, de Nadège Ringarou qui est politiste, historienne et directrice de recherche au CERIS Sciences Po, et de Philippe Gounef qui est consultant notamment auprès de l'Europe et ancien vice-ministre de l'Intérieur en Bulgarie.
През цялото време на протестите бях тук. Надявах се, че нещата ще се развият по-бързо.
J'étais sur la place pendant toute la durée des manifestations en 2020. J'espérais que les choses évolueraient plus rapidement dans un sens positif. Mais malheureusement, nous avons vu comment plusieurs tentatives de former un gouvernement pro-européen ont échoué. Nous nous sommes quittés en pensant que le changement pouvait être rapide et soudain. Cette attente s'est révélée assez naïve. Mais je pense que, même si c'est lentement et à la dure, nous avançons dans la bonne direction. Une fois sensibilisés à la cause, je doute que les gens se calment à nouveau aussi facilement.
France Culture, les termes du débat européen, Emmanuel Laurentin.
Vous venez d'entendre Mila Kolarova, qui était une manifestante en 2020 contre la corruption dans son propre pays, qui a été interrogée plusieurs années plus tard sur cette même question de la corruption, mais très récemment donc une manifestante à Sofia par l'agence France Presse. À votre tour, Béatrice Bougnol.
Oui, Philippe Gounef, vous qui appartenez à une ONG anticorruption, justement, quel rôle a joué la société civile dans cette lutte ? Est-ce qu'elle a été efficace ? Est-ce qu'elle a réussi à s'organiser pour faire face à toutes les résistances qu'on a rappelées, et où, comme cette manifestante qu'on vient d'entendre, elle est restée quelque part entachée de naïveté, cette résistance de la société civile à la corruption.
D'abord, la société civile a exposé les grandes affaires desquelles on parlait. Les 8 nains, c'est un restaurant intermédiaire entre les politiques et le procureur général et les criminels. Aussi des autres affaires de notaire qui étaient tuées il y a quelques mois. Toutes ces affaires, c'était vraiment fait par le fonds anticorruption et les autres journalistes investigatifs. C'est vraiment le société civile qui a montré aux gens comment le système marche en fait, parce qu'il continue chaque jour chaque semaine depuis déjà quelques mois de exposer de plus en plus la corruption dans le parquet, parce qu'ils ont un parquet leaks, ils ont un source dans le parquet qui montre chaque semaine quelque chose de neuf. Donc, je pense que grâce à cette rôle des différentes organisations civiles, on déjà vraiment comprend quel est le problème. Mais quelle est la solution? Ça, c'est vraiment difficile à faire. Et même depuis 15 ans, on avait ce système de surveillance de la Commission européenne sur la Bulgarie. Mais en fait, on n'a pas trouvé une vraie solution. On n'a pas trouvé une route qui est très claire, un système des réformes qui doivent être fait pour changer la situation. Et là, c'est ce que vous avez dit avant, on a déjà parlé de ce changement de la Constitution, c'était vraiment le début, mais après il y a plusieurs d'autres choses et d'autres types de réformes qui on doit faire, qui sont très lentes, et il va prendre du temps, il va prendre peut-être 5-10 ans pour changer le système de sécurité, toutes les agences du renseignement qui travaillent avec le parquet, avec les partis politiques qui sont au pouvoir pour chantager les politiciens, les entreprises. Ça va être prendre du temps.
Oui, justement, c'est une des questions, c'est que pendant ce temps-là, d'une certaine manière, on peut aussi, Nadège Rincarou, imaginer une sorte de désespérance de cette société civile, de désespérance des citoyens qui ne voient pas avancer suffisamment rapidement cette cause de l'anticorruption et qui, par ailleurs, peuvent se dire ça n'est pas la peine de se battre ou ça n'est même pas la peine d'aller voter, puisque je crois que c'est un des plus forts taux d'abstention dans ce pays par rapport à d'autres pays européens, puisqu'on en est à 60% d'abstention. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, d'une certaine manière, une lassitude à se battre contre une corruption qui continue à être présente aux yeux de tout le monde?
Alors, oui, bien sûr, mais je souhaitais souligner avec Philippe Gouneff le rôle remarquable mené par le journalisme d'investigation et les ONG d'investigation anticorruption en Bulgarie. La France pourrait se réjouir d'avoir des structures d'une telle qualité, d'une telle rigueur, d'avoir aussi des hackers informatiques qui ont été absolument remarquables. C'est quelque chose que l'on dit trop peu au sujet de la Bulgarie.
Vous avez raison.
Extrêmement important. Vous savez que le fondateur de Bellingcat, par ailleurs, était bulgare. Donc, premier élément, voilà. Deuxième élément, ce qui est moins aisément compris par les citoyens, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait une traduction de ces révélations sous forme de politique publique, il faudrait un échiquier partisan relativement stabilisé avec des gouvernements durables.
Oui.
Or, l'échiquier partisan en Bulgarie s'est effrité progressivement depuis, de fait, le début des années 2000, avec souvent des figures populistes se présentant comme au-dessus des partis, voulant incarner par leur virilité des alternatives à la reconstruction des institutions.
Vous pensez à Boyko Borisov, par exemple, c'est ça
Je pense, par exemple, à Boyko Borisov, oui.
Qui est
la tentative de Slavik Trifonov, qui était un showman qui a eu un petit moment de gloire. Et donc, la difficulté qui se présente, c'est que comme on est devant une situation de fragmentation du champ politique, au terme d'élections à faible taux de participation, il faut réaliser des coalitions post-électorales totalement exotiques, au sens où elles mettent ensemble des acteurs impliqués dans la corruption et des acteurs voulant lutter contre la corruption. Donc, les citoyens sont désillusionnés, mais c'est un peu un cercle vicieux, puisque à force d'être désillusionnés, ils votent peu, de sorte qu'il suffit de quelques militants mobilisés ou éventuellement achetés pour continuer à avoir cette version fissurée d'un spectre politique qui ensuite n'a pas de majorité assez solide pour mettre en œuvre des politiques publiques de moyenne durée.
Bien sûr. Béatrice Bougnol.
Oui, Philippe Gounef, à ce contexte politique intérieur que vient de rappeler Nadège Ragarou, est-ce que ne s'ajoute s'ajoute sans doute le contexte international et notamment depuis l'offensive de la Russie en Ukraine? Qu'est-ce qu'on peut dire du rôle que joue la Russie dans ce climat de corruption? Est-ce qu'elle est notamment impliquée dans les réseaux liés au secteur énergétique?
Le secteur énergétique, ça c'est sûr. Pendant des 10, peut-être 20 ou 30 ans, la Bulgarie était 99% dépendant des sources énergétiques de la Russie. Tous les systèmes énergétiques en Bulgarie, même les étaient dépendants de la Russie. Donc elle contrôle, elle continue à essayer de contrôler tout ce qui se passe avec le gaz, le pétrole et tout ça. Mais et pour ça la Russie a continué aussi de d'avoir influence sur différents partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont anti-européens, contre l'Europe, contre l'OTAN, qui sont soutenus par la Russie, ça c'est clair. Mais il y a aussi les partis politiques qui sont au pouvoir, qui étaient au pouvoir de monsieur l'ancien premier ministre Borisov, qui se présente comme une partie embrasse l'idée européenne de l'OTAN, mais en même temps, pendant les dernières 2 ans, il devait aussi jouer avec la Russie d'une manière qui n'était pas visible, de jouer avec et de comprendre ses intérêts. Et de satisfaire tous ses intérêts d'une manière qui n'était pas tout à fait visible. Mmh. Pour la Russie, c'est l'intérêt stratégique, c'est de maintenir un système fragile en Bulgarie qui ne fonctionne pas très bien, parce que quand ils ont besoin de n'importe quel parti politique ou les politiciens, ils peuvent faire la même chose que la partie qui sont au pouvoir, d'utiliser ce système fragile du judiciaire de son propre intérêt.
Oui, et sur ce point, Nadège Ragarou, on peut dire aussi que effectivement la Russie peut jouer sur l'instrumentalisation de certains types de manifestations. Vous avez évoqué les hackers. Il y a des hackers éthiques, comme on dit, puis il y a des hackers qui ne le sont moins, et que tout cela permet aussi de maintenir une sorte de lien entre une partie du spectre politique et la Russie, que ce soit de la part de Monsieur Kostadinov, qui représente l'extrême droite avec son parti Renaissance, mais peut-être aussi de la part du président, qui a des pouvoirs certes limités en Bulgarie, mais qui tient un discours qui est assez hostile au soutien de Kiev et qui est assez hostile aussi aux sanctions contre la Russie.
Oui, alors ce que Philippe Gounef disait très très justement, c'est qu'on ne peut pas savoir qui est pro-russe ou anti-russe dans le champ politique en s'appuyant simplement sur des déclarations ou des positionnements officiels. Mmh. Le parti GERB de Boyko Borisov était officiellement pro-occidental, et du point de vue de ses intérêts économiques et de sa survie politique, s'est retrouvé pro-russe. Donc on se retrouve avec des milieux pro-russes qui vont aller de la gauche, du chef de l'État actuel, en passant par l'extrême droite de Renaissance, Vozhajne, et en passant par le centre-droit populiste de Boyko Borisov. Donc, très important, ne pas avoir l'illusion qu'il suffirait de voir la couleur politique pour comprendre. Deuxième élément, la Russie s'appuie sur tout un ensemble de vecteurs. Elle s'appuie en effet sur les milieux d'oligarques et sur la fragilité du tissu économique. Elle s'appuie également sur les réseaux sociaux de façon majeure, sur les fake news. Elle s'appuie aussi sur le fait d'avoir une influence dans les milieux journalistiques, dans les milieux intellectuels, qu'elle soit directement financée ou indirectement. Et elle s'appuie enfin sur un certain imaginaire qui maintenant devient puissant idéologiquement, celui d'une décadence occidentale par rapport à laquelle elle serait un modèle fort, un modèle pouvant réussir à être fier et valoriser la nation. Et là, il y a des échos dans un petit pays comme la Bulgarie qui se sent fragile et humilié et qui parfois a le sentiment d'avoir été utilisé par les pays occidentaux et pas véritablement sauvé de sa marginalité géopolitique.
Évidemment, Béatrice Bougnol.
Oui, justement, Nadège Ragarou, si on doit évoquer la place, j'allais dire, de la Bulgarie au sein de l'Union européenne, qui aujourd'hui, on le sait, est en train de regarder d'autres adhésions de pays qui sont en proie au crime organisé, comme la Serbie, la Moldavie, le Monténégro ou encore l'Ukraine. Cette place-là, est-ce qu'elle est aussi, est-ce que l'Union européenne s'intéresse au devenir de la corruption en Bulgarie au vu de ces adhésions futures potentielles d'autres pays dans lesquels la corruption est une réalité?
Alors, l'Union européenne s'intéresse bien sûr à la question de la corruption, notamment par l'intermédiaire du parquet européen, qui, si pour l'instant il n'a pas accompli de très grandes actions, est une structure extrêmement importante pour espérer qu'il y en ait à l'avenir. Elle est parfaitement consciente du fait qu'il y a des niveaux très élevés de réseaux d'oligarques en Serbie, au Monténégro, en Moldavie et en Ukraine. Ce qui serait intéressant serait de voir de quelle manière il serait possible d'utiliser les savoirs qui existent en Bulgarie, notamment dans les milieux d'investigation, mais aussi dans une certaine mesure en Macédoine et en Serbie, afin de parvenir à lutter contre la toute-puissance de ces réseaux avant que les cheminements vers l'Union européenne n'aient lieu. Parce que le problème, c'est que si l'on chemine en n'ayant pas un travail en amont de renforcement des structures d'État et non pas de contournement d'État qu'on ne souhaiterait pas fréquenter, alors on ne parviendra pas à prévenir l'extension de ces réseaux criminels au sein de l'Union européenne ultérieurement.
Eh bien, merci à tous les deux et merci à Béatrice Bougnol de la Croix donc d'avoir essayé d'être les plus clairs possibles sur cette question de la corruption et c'était très clair. Merci à tous les deux. Merci à vous, Nadège Ragarou. Vous êtes politiste, historienne, directrice de recherche au CERI Sciences Po et à vous, Philippe Gounef. Vous êtes consultant, notamment auprès de l'Europe, ancien vice-ministre de l'Intérieur en Bulgarie. Vous avez travaillé également pour, vous travaillez pour l'ONG, le Fonds Anticorruption dont on a parlé dans cette émission. C'était le temps du débat préparé ce soir par Roxane Poulin, Mathias Mégis, Fanny Richer, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Jean-Guy Lamège.